Les balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, vous propose un épisode de la série Imaginaire et environnement.
Bienvenue à tous et à toutes. Je me présente, je m'appelle Stéphanie Postumus, je suis professeure au département de langue, lettres et culture à McGill. Je suis ravie de pouvoir animer cette table ronde sur Blanc Résine de Audrey Villani. Nous sommes vraiment très contentes d'avoir l'auteur parmi nous virtuellement. Elle est écrivaine. Je viens d'apprendre qu'elle est écrivaine en résidence à McGill. Je ne savais même pas. Puis elle est aussi chargée de cours au département d'études littéraires de l'UQAM. Je voulais faire une reconnaissance territoriale avant de commencer. Nous voudrions commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous nous trouvons font partie d'un territoire ancestral qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontres et d'échanges entre les peuples autochtones, notamment la nation Ganyagaraga. Nous honorons, respectons et reconnaissons ces nations qui n'ont jamais cédé leurs droits ni leur autorité souveraine sur les terres et les eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Dans mes cours, je prends toujours une minute pour réfléchir à cette reconnaissance territoriale. Alors, si ça vous va, on va juste prendre une petite minute pour réfléchir à une forme de gratitude envers tout ce qui a permis d'être là aujourd'hui, y compris les terres, les eaux, les peuples. Merci. Alors, cette table ronde fait partie d'une série qui a commencé en automne 2018. C'était dans le cadre du groupe de recherche interdisciplinaire sur le végétal et l'environnement. Et nous avons parlé du livre La vie secrète des arbres de Peter Wolleben. C'est un groupe pluridisciplinaire réuni autour du végétal. Et nous avons utilisé cet ouvrage comme point de rencontre, comme manière de tisser un dialogue entre biologistes, littéraires, historiens, entre autres. Cette table ronde a donné lieu à une publication qui se trouve en ligne pour ceux qui s'y intéressent. C'est sur le site de Loïc, ça s'appelle « Au milieu des arbres ». Notre deuxième table ronde a eu lieu en 2021, aussi dans le cadre de GRIP. C'était animé par moi-même. C'était intitulé « Comment concilier les savoirs autochtones et les savoirs scientifiques à propos des milieux humides » autour du livre « Breeding Sweetgrass » de Robin Wall Kimmerer. Il était encore question de construire des ponts entre les savoirs et les langages pour aborder le végétal d'une manière moins anthropocentrique. Il y avait 3 questions à ce moment-là et 9 intervenants. Entre autres, un poète mélodiste, un artiste, un herboriste, un botaniste, un écologue. Il n'y avait pas de publication, mais si vous voulez regarder l'enregistrement, ça se trouve en ligne. Cette fois-ci, nous nous réunissons au printemps et au lieu de parler de l'écriture non fictive ou la non-fiction, c'est autour d'un roman qu'on se réunit. C'est dans le cadre de Rêve, c'est un groupe de recherche. Bon, le rêve représente reconnecter avec le végétal et l'environnement et c'est avec la participation de l'auteur Audrey Villani. Et aujourd'hui, le titre de la table ronde est « Que peut la littérature pour le végétal ?» Nous allons suivre la formule habituelle de nos tables rondes interdisciplinaires. Et ce n'est pas une table ronde autour du livre même. C'est une table ronde pour discuter de façon plus générale des problèmes qui se présentent quand on cherche à parler de la nature et du végétal en particulier. Encore une fois, c'est une discussion interdisciplinaire. Alors, les 5 questions qui vont servir de point de départ pour notre discussion, je les lis. Donc, la première question, comment parler de la nature sans donner l'impression de la dominer? La deuxième question, comment ce roman nous permet-il d'interpréter notre relation aux sciences et au savoir? Troisième question, comment comprenez-vous les métamorphoses du personnage de Da, situé à mi-chemin entre la forêt et l'humanité? Quatrième question, dans quelle mesure la littérature offre-t-elle de nouvelles possibilités par rapport aux pratiques de nomination des plantes? C'est Jonathan qui élabore la question en premier. La cinquième question. Quel rapport peut-on établir entre la flore et le cadre géographique et historique imaginaire? Je l'ai fait en résumé du livre, mais en fait, je vais plutôt passer par la quatrième de couverture pour élaborer la question de comment parler de la nature sans donner l'impression de la dominer. J'étais un peu perplexe en regardant la question. Parce que quelque part, il est vrai que quand on prend la parole, le langage, quelque part, c'est une forme de violence quand on essaie de nommer et identifier, parce qu'on coupe en fait le flux des perceptions pour identifier, pour arrêter pendant un moment une impression de tout ce qui nous arrive. Aussi, la question m'a un peu frustrée, même si c'est moi qui a accepté de parler de cette question, parce que dès qu'on parle de dominer, il s'agit dans ma tête d'une pensée dualiste. Donc, on a un sujet qui fait cet acte de domination et il y a un objet. Alors, déjà, on s'inscrit quelque part dans, bon, c'est qui parle? C'est l'homme, la culture, les êtres humains. Il parle de quoi? De la nature. Donc, déjà, une séparation dans cette dualiste. Et c'est vrai que c'est vraiment, bon, cette séparation, je dirais, ce qui a permis à la société occidentale de traiter la nature comme ressource inépuisable, comme être passif, en fait, comme objet passif. Il est vrai qu'il faut reconnaître toute la dévastation qui a été faite à cause de cette pensée dualiste. Il y a déjà eu des tentatives dans d'autres domaines pour réparer cette relation déséquilibrée. Entre autres, je pense à l'éthique de l'environnement qui a cherché à établir la place inhérente de la nature. Bon, il y a l'écoféminisme qui, au début, a essayé de renverser cette pensée dualiste pour valoriser la nature plus que la culture, et aussi le droit de l'environnement qui accorde des droits à la rivière, à l'arbre comme personne. Mais que fait la littérature? D'abord, je voulais changer un tout petit peu la question parce que je pense qu'il s'agit moins, bah, il s'agit de parler de la nature, mais il s'agit de raconter. Donc, est-ce qu'il s'agit de raconter la nature, raconter avec la nature, raconter l'histoire de la nature, ou est-ce que, et je pense que c'est ça que le livre essaie de nous dire, il s'agit d'écouter la nature qui se raconte elle-même. Quand je regardais la quatrième de couverture, j'ai tout de suite remarqué la différence entre ce qui n'est pas en italique et ce qui est en italique. Je ne sais pas si vous avez le texte devant vous. Je lis rapidement pour que vous voyez la différence. Dans un couvent construit de mains de femmes aux confins de la forêt boréale, 24 sœurs donnent naissance à une fillette qui grandira en apprenant la langue et les lois d'Inamaka, la terre mère. À quelque distance de ce couvent, une ouvrière de la même compagnie meurt en couche, laissant un poupon albinos à son père qui, à ce tuer au travail, le fera médecin. Le roman retrace la rencontre, l'accouplement et le destin de ces deux êtres dissemblables, Dar et Lore, et celui de leur progéniture. Il transporte les odeurs de la taïga et les bruits de la ville, des histoires de femmes en fuite, de débâcles et d'enfants écartés. Il remonte aux origines d'une lignée dont sortira la Nouedos et Lupin Fleda. Alors que le texte en italique, je continue, les lunes gonflent et s'effritent, la boue croûte sur mes bras et la résine colle aux tégument. Ma peau devient écorce conifère, mes cheveux poussent comme les usnées qui foisonnent sur les branches mortes. Je ne sais plus si je suis femelle humaine ou arbre habité. Alors, ce qui m'a tout de suite frappée entre ces deux bouts de texte, c'est que au début, j'ai l'impression que c'est plutôt l'humain et les constructions humaines qui jouent le rôle de sujet de la phrase. Alors que dans la deuxième partie, dans la partie en italique, c'est tout de suite les éléments de la nature qui sont actions et qui agissent sur les êtres humains. Je me posais la question, comment la littérature peut-elle déstabiliser cette, comme c'est l'être humain qui fait l'action sur un objet qui est comme objet nature. Je crois que déjà mettre la nature dans une phrase au début, comme action de la phrase, est une façon de la raconter. Et de commencer à défaire cette opposition. Une deuxième manière, c'est non seulement mettre la nature comme dans la position de sujet qui agit, mais aussi de créer un sens d'ambiguïté au sujet de qui est le sujet, où est le sujet exactement. Et c'est je ne sais plus si je suis femelle humaine ou arbre habité, qui crée plusieurs possibilités où il n'y a pas cette différenciation entre d'un côté l'être humain, la femelle humaine, et de l'autre côté l'arbre habité. C'est possible d'être les deux. Je dirais que le ou suggère qu'elle est les deux. C'est aussi un espace de ne pas savoir, un espace d'un savoir qui n'en est plus un. Et je vois l'incertitude comme ce lieu d'un sujet en devenir. Et ça m'a frappé le nombre de fois où Da, elle a une chenille dans les cheveux. Donc, de nous rappeler que le corps humain est aussi un écosystème qui peut accueillir toutes sortes d'êtres. En fait, souvent, on ne pense pas à ces êtres microscopiques qui se trouvent dans le corps. Mais déjà, ça commence à défaire cette idée qu'on a une entité qui est l'être humain, qui est un individu. L'individu est fait de plusieurs. Alors,
Je vais peut-être commencer en disant que ce qui est à la fois le pari, la difficulté quand on veut échapper à l'humain, quand on fait de la fiction, c'est qu'on est des êtres de langage et c'est très difficile d'y échapper. Il y a une phrase que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, ça concerne pas le végétal mais l'animal, mais je pense qu'on peut faire la même réflexion. C'est un philosophe, Yves Christin, en France, qui disait, mais qu'est-ce que peut bien vouloir dire un comportement humain à l'égard des animaux? Comment peut-on parler d'un comportement? Qu'est-ce que ça signifie? Au fond, quand on y pense, c'est une phrase qui a de sens que pour nous, pas pour les animaux. Ce qui est difficile, je pense, c'est de s'arracher à soi-même pour laisser parler la nature ou les animaux ou le minéral ou tout ce qui n'est pas nous.
on parle de, je pense que ça tient d'un effort de décentrement, mais aussi un effort d'imagination ou d'empathie, tu sais, de se demander, en fait, à plusieurs reprises, là, dans Blanc Résine, je trouve un élément très marquant, là, on a le j'écoute qui revient, ou cette plante-là me raconte des choses, ou, tu sais, puis on a souvent cette espèce d'effort-là de comment est-ce qu'un sapin ou un pin raconte la vieillesse, et on va parler de parasites, on va parler des blessures dans l'écorce. Je pense que ça nous informe un peu sur ce que peut la littérature en tant que telle, c'est que ça nous aide à faire appel à notre imagination pour faire ces déplacements-là, puis combler aussi le gouffre là, de notre ignorance de cette altérité-là, autant animale que végétale, qui est extrêmement radicale, là, tu sais.
J'aimerais commencer peut-être avec le paradoxe, parce que, comme disait Jean-François, dès qu'on utilise le langage, c'est du langage humain, donc on est quand même pris avec les mots. Pour désigner une plante, on va utiliser quand même du langage humain qui a été fabriqué par l'humain, donc on est déjà pris avec ce matériau. Mais en même temps, le registre poétique, surtout dans Blanche Lézine, permet d'ouvrir la signification. Donc de sortir les mots de leur gangue habituelle, de leur manière de fonctionner, on va dire, habituelle. Et c'est en jouant avec tous ces échos, en les plaçant dans un registre qui permet de redéfinir les rapports entre l'humain et le végétal, mais entre les végétaux eux-mêmes, parfois aussi, avec la nature, inventer des rapports qui sont basés sur une proximité avec la nature. Grâce à ce jeu de la signification, ce miroitement là de la signification, qui permet de s'approcher, ne serait-ce que mentalement, là, de la nature, et puis aussi nous amener à réfléchir sur notre propre rapport à la nature. Je pense qu'il y a un petit peu les deux aussi dans ce sens-là.
Ça fait un drôle de décalage d'aller parler de plus théoriser sur mon travail, mais quand même, je pense que, mettons, dans la façon que j'ai de penser cette question-là, puis d'écrire en général la nature, c'est aussi une question de l'absence de moralité. Donc, la nature, elle n'est pas dans une perception morale ou immorale. Donc, ce travail de la moralité, donc amoral, pour moi, il est vraiment très important dans la perspective d'une sorte d'attention à la nature, d'écoute et de compréhension que les systèmes et les écosystèmes de la nature ne fonctionnent pas sur le même registre que les nôtres du point de vue de la moralité. Et c'est un peu d'ailleurs l'attention que je voulais construire entre les deux personnages principaux aussi. On a un personnage qui est vraiment avec Laure, qui est dans une conscience morale du réel, dans une relation par moments conflictuelle entre ce que lui trouve qui est moral, puis ce que la société lui dit qui est moral, quand quelqu'un souffre, par exemple, puis qui ne peut rien faire pour lui, ou ce genre de situation-là. Mais il est dans cette espèce de tension-là à essayer de trouver la bonne chose à faire, comme s'il y avait une bonne chose à faire. Alors que d'ailleurs, dans une sorte d'abdication morale globalement, quand elle agit d'une façon qui est beaucoup plus intuitive, qui n'est pas dictée sur le bien, le mal. C'est pas polarisé de cette façon-là, son univers. Puis pour moi, quitter cette espèce de tension entre le bien et le mal, ça me semble une des stratégies qui est efficace pour se rapprocher davantage d'une perception qui serait plus naturelle du monde.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est le travail sur la langue. Alors, j'ai peur d'anticiper sur une question ultérieure. J'espère que ça n'est pas le cas. C'est vrai que j'ai vraiment eu l'impression aussi qu'il y avait un travail sur la langue dont la fonction était justement de nous empêcher de dominer la situation à nous, lecteurs. Ça m'a semblé très, très visible dans ce lexique qui fait intervenir diverses langues. Du coup, personne ne peut détenir on a l'apanage d'une connaissance totale. C'est quelque chose qui doit être partagé et tout le monde est mis dans une position de devoir à apprendre d'autres langues, en quelque sorte. Donc, personne ne domine. Je pense que le rapport à la langue, il est un peu identique au rapport à la nature. Ça m'a frappé aussi, avant même de découvrir le lexique, dans le fait qu'en lisant, il y avait un certain nombre de mots qui m'échappaient, faute de connaissances techniques, qu'au début, j'ai commencé à regarder le sens des mots, puis après, je me suis dit, ben, on va lâcher prise, quoi, et on va arrêter de chercher tous les mots. Et je pense qu'il y a effectivement la construction d'une position de lecteur qui est lâcher prise. Voilà. Et accepter de ne pas tout comprendre de cette nature-là, effectivement, ce qui est évoqué dans un rapport peut-être plus poétique à ce qui est évoqué.
J'avais eu la même perception d'Isabelle qui, si je puis dire, m'a coupé l'herbe sous le pied. L'autre chose qui m'a frappée, c'est vraiment le début du roman où, en fait, pendant un temps, je me suis demandé qui était en train de naître. Et je pense que là, il y a une hésitation sur ce qui est en train de se passer, en fait. Et j'ai mis un moment à me dire, oui, non, mais c'est un enfant. Parce que, à un moment, je me suis dit, c'est un arbre. Audrey Wilhelmine décrit de façon métaphorique la naissance d'un arbre. C'est quelque chose qui éclot. J'ai eu plein d'hypothèses et je pense que ça aussi, ça modifie notre relation à la nature parce que du coup, on n'a pas cette idée immédiatement de l'humain s'imposant au début du texte.
Je remarque que jusqu'à présent, seuls les gens travaillant en littérature ont parlé. Comme nous sommes censés être dans une table ronde interdisciplinaire, je me tourne vers les biologistes, écologues, historiennes. Qu'est-ce que vous auriez à apporter à la discussion?
Je peux peut-être juste dire très rapidement, les mots, je les connaissais la plupart dans les différentes langues. C'est mon travail, donc ça m'a plutôt amusé. Je l'ai fait moi-même dans un de mes recueils où j'utilisais l'inuktitut parce que je visais les communautés inuites. Comment faire parler de végétal? Et ça revient à Jean-François aussi, c'est l'utilisation des mots, l'utilisation de... Patrick Blanc le fait dans un très court texte que tu connais peut-être, Rachel, où il fait parler, en fait, le personnage presque unique, que c'est une plante qui est prise et il raconte donc évidemment cette physiologie, tout ce que la plante subit en quelque sorte, mais ça reste encore une fois qu'on impose à la plante un langage qui est celui des humains. En même temps, je pensais à un livre de Osei que j'ai lu dernièrement, alcaïste, un peu bouddhiste et finit sa vie reclus dans un monastère, à avoir une petite fenêtre sur le monde. La seule chose qu'il raconte dans ce livre, c'est l'écoute qu'il entend, c'est des patraciens qui chantent, ou enfin, le langage, c'est très difficile de mettre dans des mots où on reste silencieux, où on utilise, comme le fait Audrey, un langage un peu plus poétique, et défaire un peu comment on écrit avec, puis défaire notre quotidien, si on veut, avec le langage. C'est là que c'est très difficile. Et effectivement, je pense que la réussite, c'est ce personnage qui est à la fois un espèce de monde végétal et à la fois un monde humain qui se rencontre là-dedans. Si on retourne là, c'est un peu plus de 100 ans, en fait, c'est assez remarquable de voir comment la nature est vraiment assujettie à l'homme et comment c'était représenté dans l'imaginaire des êtres humains, comment on crée des arbres généalogiques du monde avec vraiment là, des choses bien placées, bien symétriques. Là. Il fallait que ça soit symétrique parce que Dieu ne pouvait pas faire autrement. Puis on revient évidemment à la Bible et à cet esprit-là que je pense qu'on doit défaire, mais qui n'est pas facile comme écrivain. C'est un pari difficile à prendre.
Ça va faire un peu du pouce sur ce qui a déjà été dit, mais ce que j'ai bien aimé, c'est finalement être perdu, de justement me poser la question qui parle et puis où est-ce qu'on en est. Je trouve que quand on a besoin de réfléchir sur une question, se perdre à un moment donné, c'est toujours un point de départ pour bien y réfléchir finalement. Et donc le fait d'être perdu dans qui parle, où est-ce qu'on se situe, ça aide beaucoup, je trouve, à réfléchir. Donc le langage, puis la diversité du vocabulaire faisait appel à plein de dimensions aussi très différentes. C'est surtout ça qui m'a plu et pour répondre à la question qui est posée. Le fait d'être perdu, c'est toujours un peu comme en forêt, quand on veut bien connaître la nature, comment s'y promener, souvent ça passe par s'y perdre avant de pouvoir s'y retrouver.
J'aurais peut-être une suite. Peut-être pas nécessairement au niveau de la littérature, mais plus la réflexion sur comme la communication même. Moi, je pense à le champ de comme l'herboristerie holistique, l'agriculture biodynamique. Ce qu'on entend beaucoup, c'est cette idée que les plantes communiquent avec nous, mais via des sensations et des émotions. Donc, je me questionne quant à la possibilité de mettre l'accent sur cette relation émotionnelle. Il y a aussi cette idée que pour construire davantage de communication avec la nature qui nous entoure, c'est qu'il faut passer du temps non transactionnel avec cette idée que comme même si, par exemple, on a un agriculteur ou une agriculture triste. Donc, l'utilité d'aller juste dans le champ pour dire « je vais faire une sieste dans le champ » et là, on développe un nouveau rapport au végétal qui n'est pas justement de domination. Donc, c'est peut-être aussi une piste à explorer.
Je pourrais parler à l'infini de ce roman-là. En fait, il y a une citation de Starhawk qui est une sorcière écoféministe que j'aime tout particulièrement et à laquelle je reviens tout le temps, qui dit qu'il n'y a rien qui change tant que sa forme, son langage et sa structure ne changent pas aussi. Ce qu'on peut retrouver là, dans Blanc-Résine qui me semble très intéressant pour réfléchir à cette question-là de comment parler de la nature, comment parler avec la nature, c'est cette structure-là qui est cyclique, en fait, saisonnière, qui tient plutôt de la spirale que de la ligne droite. Puis ça, je pense que c'est quand même très intéressant comme choix formel parce que ça vient nous réancrer dans des rythmes qui sont tout à fait naturels. Autant le début du roman nous ramène à la fin du roman qui nous ramène au début, autant c'est une ouverture sur quelque chose qui est plus grand aussi. Je pense aussi qu'un autre élément qui vient participer à ça, c'est le choix de l'écriture fragmentaire qui vient créer comme des espaces d'entre-deux qui nous poussent à l'investir, à remplir ces vides-là, mais qui laisse aussi la place à tout ce qui nous échappe. Je trouvais ça bien intéressant comme choix.
On passe à la deuxième question. Comment ce roman nous permet-il d'interpréter notre relation aux sciences et aux savoirs?
Merci. Alors, je suis un littéraire qui s'intéresse aux sciences dans la fiction. Je parle d'un point de vue littéraire et on a souvent de la science une vision extrêmement, une conception extrêmement objective et souvent froide. Je voudrais rappeler que ça ne fonctionne pas toujours de cette façon-là. Je vais partir un peu de loin avant d'arriver au roman d'Audrey. Rappeler que Galilée, qu'on associe à la science moderne, a été parmi les premiers à proposer ce qu'on appelait des expériences de pensée, hein, qui vient du terme allemand Gedankenexperimenten, qu'on traduit généralement par expérience de pensée, mais qui peut aussi se traduire, je pense que de plus en plus on utilise cette expression-là, expérience en imagination. Ce qu'on appelle expérience de pensée, ça permet de résoudre des problèmes par la seule puissance de l'imagination quand les conditions de l'expérimentation ne sont pas possible parce que entre la question théorique, au départ l'objet théorique et les données empiriques, il y a un écart qui est trop grand. Quand, pour toutes sortes de raisons, il n'y a pas moyen de produire l'expérience dans le réel qui nous entoure. Autrement dit, l'expérience de pensée ou l'expérience en imagination repose sur une question qui serait « que se passerait-il si ?» Donc, on est dans l'ordre de l'hypothèse, en fait. Et là, on n'est pas très loin de la fiction, puisque finalement, toute fiction repose dans une certaine mesure sur cette hypothèse-là. Qu'est-ce qui se passerait si telle situation se produisait? Et le philosophe Ehrenmarth, qui a beaucoup travaillé justement sur les expériences de pensée, disait que si on associe souvent les expériences de pensée à la physique, il reste que, je le cite, l'architecte, le bâtisseur de châteaux en Espagne, le romancier, l'auteur d'utopies sociales et technologiques, expérimente à partir de pensées. Alors moi, quand je pense à la science dans la fiction, c'est dans cet esprit-là que je l'interprète d'un point de vue épistémocritique, hein, ce qui signifie tout simplement lire un texte en se posant la question des usages qui sont faits, qui sont proposés de différents champs disciplinaires, y compris scientifiques. Comment le texte les utilise dans la narration? Et j'ajoute que la fiction n'a pas à s'intéresser à la vérité qui serait propre aux différents champs disciplinaires, mais plutôt aux effets sociaux et imaginaires qu'ils provoquent, parce que l'objectif, ce n'est pas d'expliquer la science, ça c'est de l'ordre de la vulgarisation, mais de voir comment elle s'intègre à nos discours, de quelle façon la science, en fait, participe de nos vies. Dans le roman d'Audrey, c'est un roman qui n'est pas didactique du tout, même si on apprend des choses en cours de route sur la botanique, sur les plantes. Ce qui me semble intéressant, moi, c'est que j'y vois un entrelacement entre connaissance du végétal et poésie du végétal. Et quand on parlait tantôt dans la discussion d'une absence de domination, pour moi, elle est aussi dans ce rapport-là, cette liaison entre la connaissance et la poésie. Du point de vue botanique, il y a un savoir des plantes que développe Dave qui nous fait véritablement entrer dans l'univers végétal. Et là, je fais une distinction aussi entre connaissance et savoir, qui est discutable, mais pour moi, la connaissance, ce qu'on entend par connaissance, ça désigne un domaine précis qui est extérieur au sujet. Connaissance d'une langue, connaissance d'une discipline. Et de ce point de vue-là, la connaissance, elle est davantage compartimentée et plus objective. Alors que le savoir, c'est davantage une construction mentale individuelle qui permet d'englober plusieurs domaines de connaissance. Le savoir a davantage une dimension subjective, c'est une interprétation des connaissances. Ce qui me semble intéressant pour moi dans ce roman comme lecteur, c'est qu'avec Da, on a un savoir des plantes. Elle apprend sur le tas. Son savoir, c'est un savoir riche et large du végétal, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'écriture elle-même, qui est très poétique. Donc, c'est un savoir des plantes. Elle ne nous enseigne pas des choses sur les plantes. On l'accompagne, en fait. On découvre avec elle. Donc, connaissance, mais aussi poésie, parce que, on l'a dit déjà, toute la narration est marquée par les mots du végétal. L'écriture même fait en sorte, pour moi, qu'on est vraiment dans la poésie au sens fort, c'est-à-dire dans un univers autre. Pour moi, c'est ça d'abord la poésie, c'est plonger dans un univers qui nous éloigne de nous-mêmes, qui nous éloigne de notre vie quotidienne. Alors, c'est une écriture qui nous situe dans un univers mental autre, qui est celui du végétal. On apprend moins dans une certaine mesure par les personnages que par les plantes elles-mêmes. Nous sommes dans la végétation parce que la végétation parle à travers Da. Quand elle dit, par exemple, qu'elle est fille de la forêt, ici, c'est à prendre au sens littéral, à mon avis, elle est engendrée par la forêt parce qu'elle naît, et comme elle naît dans les premières lignes, on pourrait dire que le récit naît de la forêt même, de l'environnement végétal et animal dans une moindre mesure. J'ai planté mes poings de chaque côté de mon tronc. Par effet analogique, on pense à un tronc d'arbre. Quand elle ouvre le poing pour montrer ses doigts, elle parle des 5 branches. Donc, il y a toujours un effet d'analogie entre l'humain et la nature. Elle parle aussi de la bibliothèque des odeurs. Là, c'est l'odorat comme savoir. Dans une certaine mesure, tous les sens ou presque sont appelés à contribution dans ce livre. Il y a souvent un possessif, comme une identification, mais c'est aussi une manière de dire qu'à travers « je », ce qui parle, c'est l'environnement végétal lui-même. D'une certaine manière, c'est la science botanique qui parle à travers elle. Et comme l'idée, ce n'est pas de parler nécessairement précisément du roman d'Audrey, mais à partir du roman d'Audrey, je voudrais situer ce roman-là un peu dans l'esprit d'un projet auquel je vais participer. Il s'intitule « Quelle forme pour l'Anthropocène ?» Et je trouve que ce roman convient tout à fait à ce projet. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'avancer que tous les débats, tous les discours, toutes les peurs aujourd'hui qui sont liées au changement climatique et à ce qu'on appelle l'Anthropocène, peuvent conduire à des formes littéraires nouvelles, de plus en plus hybrides, qui seraient marquées par une parole qui serait propre au non-humain. Je vous donne 2 exemples très rapides. Ce sont 2 romans que je n'ai pas lus encore, mais dont on m'a parlé. En France, le roman d'Emmanuel Salas, qui s'intitule « Orgel », qui soumet la vie de ses personnages à la fonte d'un glacier alpin. Et il y a vraiment une agentivité qui est attribuée à la montagne. Ou encore le récit de Frank Smith, Katrina, qui souligne la précarité de la vie humaine devant l'avancée des océans et le risque des submersions des côtes. Des récits comme ça inventent des formes narratives éloignées de la représentation de l'intériorité, qui a été une des marques de commerce de la modernité littéraire. Il s'agit moins de sonder l'esprit de personnages fictifs, de personnages humains, que de rapporter ces existences des personnages humains à des milieux de vie qui ne sont pas un cadre inerte, mais qui agissent eux-mêmes à leur manière, d'une manière qui est parfois difficilement saisissable. Et c'est cette action-là du milieu qui devient l'enjeu premier du récit. Non pas la parole des personnages, mais le milieu lui-même qui a des effets sur la conception des personnages, l'énonciation, le cadre spatio-temporel. Moi, il me semble que Blanc-Résine pourrait se situer un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire que le roman nous permet de mesurer la place de l'individu humain dans une zone critique qui est constituée d'écosystèmes à la longévité bien supérieure à celui de l'être humain, et de rapporter l'activité humaine à ces écosystèmes. La végétation, les plantes, ne sont plus, pour moi, quand je lis ça, le simple cadre spatial de l'action narrative, mais vraiment un actant du récit au même titre que les personnages. En ce sens-là, pour moi, c'est un roman qui relève des nouvelles formes de l'anthropocène.
Il y a un autre élément, il me semble aussi, pour cette question-là, c'est la conjugaison des savoirs autochtones, transmis, on le sent, de génération en génération, même si c'est pas forcément présent dans le récit, même si c'est pas représenté, mais on sent qu'il y a cette présence d'une transmission de savoir. Alors, j'aimerais t'entendre, parce qu'il y a aussi évidemment la connaissance, notamment avec le personnage de Laure, qui lui a appris la botanique et qui l'utilise pour ses remèdes, etc. Mais aussi l'herboristerie. d'un autre côté. Donc, il y a différents types de savoirs et de connaissances. Alors, comment toi, tu envisages les savoirs, ceux de l'herboristerie? Là, on ne parle pas d'objectivité. Ce n'est pas non plus une construction mentale, simplement. Où est-ce que tu places...
J'ajouterais autre chose de ce que tu dis de cette interdisciplinarité, c'est la médecine.
Oui.
Parce qu'en fait, il est médecin, mais c'est une drôle d'étude de la médecine qu'il fait. Et en ce sens-là, c'est une médecine qui n'est pas traditionnelle aussi. Donc, ça rejoint aussi l'esprit des savoirs autochtones. Ça traverse continuellement le roman de la même façon que... C'est un personnage particulier, là. C'est presque un apac, c'est un personnage vraiment très singulier. Physiquement, Etabina, c'est particulier dans le lieu où il se trouve, mais aussi justement parce qu'il est à la jonction de différents modes de connaissances qui ne sont pas pris dans leur sens les plus traditionnels. Il est à la jonction de plusieurs connaissances comme ça, mais je pense que, comme tu dis, je n'avais pas mentionné, c'est vrai, c'est là dans le langage tout le temps, j'ai parlé du langage, cette interdisciplinarité entre médecine, herboristerie, connaissance des plantes, ça passe à travers un univers autochtone qui est là continuellement. Il en participe à sa manière. J'ai parlé d'intégration des personnages à la nature, mais c'est aussi l'intégration d'un homme blanc à la culture autochtone également.
Je parle de traditionnel et tout ça, mais il y avait un groupe de médecins dans les années 1800, les éclectiques, qui étaient des médecins, mais qui utilisaient des plantes. Et quand on regarde les thèses et les mémoires qui étaient faites en France par Bayon et d'autres à la fin des années 1800, il y avait toujours un chapitre assez curieusement alors qu'il travaillait sur une famille de plantes ou quelque chose comme ça, se trouvait toujours de façon un peu inopinée un petit passage sur l'utilisation des plantes à l'intérieur de la famille ou par ailleurs. Ça a déjà existé, mais ça s'est effrité avec le temps. Et on connaît un peu le point de vue de la médecine sur l'utilisation des plantes. Je me situe un peu plus dans cette dimension où le divorce n'était pas fait.
Ben, en fait, c'est sûr que pour moi, il y avait un contraste entre la façon dont Laure et Da appréhendent la nature. On pourrait dire, si je reprends les termes de Jean-François, que Laure a une connaissance des plantes par rapport à son travail, à son métier, aux tâches qu'il doit accomplir pour les gens, alors que Da a un savoir plus organique, plus intuitif et plus expérimenté par son corps, par son expérience de forêt, qui fait en sorte que leur façon d'appréhender les plantes est quand même différente. J'essaie vraiment de créer des univers justement qui n'ont pas un référent temporel spécifique ni géographique spécifique, même si on peut les situer, les placer avec les choix syntaxiques puis les éléments qui sont dépeints. Le développement technologique représente assez bien le début de la révolution industrielle. Je suis allée voir les livres d'herboristerie puis de médecine de l'époque, puis le rapport de Laure aux plantes est effectivement beaucoup basé sur ces connaissances médicales-là, qui étaient quand même une tentative de domestication de la nature, une appropriation. T'sais, on a un personnage qui veut avoir les bons outils et exploiter les outils qu'il y a autour de lui pour être efficace dans son travail, dans sa communauté, puis tout ça. Donc, il est plus dans une perspective, effectivement, de contrôle de son environnement, alors que du côté de là, puis tu sais, je vais en parler un peu tantôt, mais du côté communautaire, avec les femmes, avec sa façon d'intervenir comme sage-femme un peu n'importe quand, d'aider une telle avec telle plante de son côté, c'est un rapport beaucoup plus naturel de transmission d'une relation moins hiérarchique avec la nature dans laquelle elle se trouve. C'est un peu chaotique comme réponse, mais oui, pour Laure, il y avait une dimension médicale fin 19e qui était importante pour moi. Puis j'ai été visiter aussi, dans la perspective de l'écriture de ce roman-là, j'ai visité beaucoup les jardins botaniques en France. Mais tu sais, les petits jardins, celui qu'il y a à Montpellier, si je ne m'abuse. En tout cas, il y a plusieurs jardins botaniques intéressants qui datent du 19e siècle dans les facultés de médecine, donc vraiment liés à la pharmacie et non liés à la préservation des plantes en général, qui m'ont intéressée, qui m'ont inspirée pour ce travail-là aussi.
On va passer à la troisième question. Comment comprenez-vous les métamorphoses du personnage de Da, situé à mi-chemin entre la forêt et l'humanité?
Je ne pense pas que je vais avoir une réflexion aussi profonde et poussée que vous pouvez les avoir d'un point de vue plus théorique. Pour moi, Da, elle ne se métamorphose pas vraiment. Elle est déjà entièrement et totalement en relation avec la nature dès sa naissance. Il y a davantage un mouvement vers un éloignement de cette identité-là à partir du moment où elle est en relation avec Laure, puis plus particulièrement à partir du moment où elle est dans le village. Puis la maternité va à la fois l'éloigner et la re-rapprocher de cet état de nature-là selon, tu sais, avec les lios, ça va être un peu différent. Avec ses filles, ça va être différent. Elle va se rapprocher, elle va retourner vers une sorte d'animalité puis d'état de nature de plus en plus grand. Puis avec la mort de ses enfants, c'est aussi la confirmation d'une libération des codes humains qui sont, dans sa perception, l'origine de la mort de ses enfants. Donc, comme ce qui est ces codes-là, j'arrête d'essayer de m'y plier, c'est n'importe quoi, j'ai fini de me battre avec cette chose-là. Donc, pour moi, c'est plus, à la limite, une boucle. On parlait de cyclicité tantôt, donc c'est un cycle qui se complète, mais elle n'a pas un état de métamorphose. Puis je travaille quand même souvent des personnages de cette nature-là, c'est-à-dire que c'est des personnages dont l'identité est déjà fixe. T'sais, si on regarde l'or, c'est quelqu'un qui tente de se définir, qui tente de comprendre ce qu'on attend de lui, de se construire par rapport à ces attentes-là, alors que d'ailleurs refuse de correspondre aux attentes. Elle est son identité, elle raconte sa naissance, elle raconte sa mort, elle est exactement la même personne entre le début et la fin du roman. Pour moi, ces personnages-là, ils servent davantage à la métamorphose des autres. D'ailleurs, elle est comme un vecteur d'accélération des savoirs naturels des autres personnages. Elle amène la présence des plantes de façon plus forte dans la pratique de l'or. Mais tu sais, elle enseigne aussi à Cléo, la petite fille à la fin qui s'en va finalement, la botanique. Elle enseigne à Cécile, qui est enceinte, comment partir. Les sœurs Sioux, elle les aide à mettre au monde leurs enfants. Donc, il y a une perspective de ramener une intuition de la nature auprès de d'autres femmes, de faire en sorte que ce savoir-là servent de point de transformation, pas une sorte de métamorphose complète, mais de point de transformation chez les autres. Et pour moi, c'est aussi une façon de parler de... On parlait d'écoféminisme, on parlait de Starhawk tantôt, c'est sûr que c'est des... Tu sais, j'ai lu Starhawk juste avant d'écrire Plan Résine, ça a été une lecture qui a été importante pour moi aussi. Puis j'ai quand même beaucoup réfléchi à la question de l'écoféminisme, puis c'est sûr que c'est un enjeu qui est très présent et de plus en plus dans ma pratique. Mais mon rapport à la nature, puis je pense le rapport des personnages aussi et qu'on trouve dans Blanc Résine, ça reste un rapport pragmatique. Tu sais, on parlait de changement climatique, et Jean-François, ton projet qui est vraiment intéressant, mais tu sais, on a, même en parlant de la perte de la nature ou quelque chose comme ça, on est à côté de la nature, là. À mon sens, elle s'en fout, là. Elle va se dérégler, elle va se régler, ce ne sera pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois. Ce qui est en jeu, c'est nous, c'est les espèces autour de nous, mais ce n'est pas le concept de nature. La nature, elle se clique juste à voir Tchernobyl puis commence à repousser. C'est pas, elle n'est pas en danger par nous. Nous, on est en danger par nous. Puis notre rapport à la nature est en danger. Je vous dis ça, on est en avril puis je ne vois plus dehors tellement il y a de verglas dans ma fenêtre. Nous, on est en jeu, mais la nature ne l'est pas. Puis je pense que c'est un peu aussi la perspective qu'il y a dans le livre. Il faut que les perceptions par rapport à l'accès à la nature des femmes dans la communauté où Daa évolue, se métamorphose, progresse, évolue et à travers ça, ben, leur rapport entre elles puis leur rapport aux autres vont évoluer aussi. Donc pour moi, Daa, c'est moins un personnage qui se métamorphose lui-même qu'un personnage qui va agir déjà nature, déjà arbre, déjà animal, déjà écosystème, est capable d'amener les autres à se rapprocher de cette partie-là d'eux-mêmes, en fait.
Audrey, par rapport à ce que tu disais toi-même tantôt, effectivement, la nature, elle n'a pas de point de vue moral. Nous, nous avons un point de vue moral par rapport à nous-mêmes et à ce que nous faisons à la nature, mais en effet, la nature, elle s'en fout de nous.
Je pense qu'il y a vraiment une indifférence totale et juste à voir comment les souris vivent dans ma maison, comme clairement, ils s'en foutent de nous autres d'une façon très affirmative.
C'est exactement ce que j'avais noté, ce que tu proposes, Audrey, ce que tu nous expliques, là, qu'en fait, j'ai l'impression que Daa est toujours comme un être de potentialité, puis que tout dépendant dans les différentes situations, est-ce qu'elle se retrouve, elle va comme actualiser certaines facettes de son identité plutôt que d'autres. Quand elle veut se cacher dans la forêt, elle se fait arbre. Quand elle tombe enceinte, elle se fait comme une femelle poisson ou rivière, tu sais. Fait que c'est vraiment juste comme, je pense, une espèce de personnage qui est en constante réactualisation. C'est aussi intéressant de remarquer là, que tout au long du roman, il y a quand même une espèce de mouvement d'expansion. On a cet enfant-là qui naît, puis qu'au fur et à mesure de sa vie, c'est les mots qui reviennent, là, c'est qu'elle gonfle, elle croît, elle s'étend jusqu'à devenir, en fait, la Terre en tant que telle, tu sais. Si on a à parler de métamorphose, c'est surtout dans cette perspective-là d'un mouvement d'ouverture, d'expansion, qui est très présent là, dans les descriptions de sa peau, en fait, qui est marqué par l'environnement, qui se fait écorce, écorce d'arbre, écorce terrestre par la suite, fait, une espèce de transposition, là, tu sais.
Bon, effectivement, on a l'impression, quand on a parlé de métamorphose, je me souviens, quand on a discuté, c'est parce qu'on avait l'impression que l'hybridité était de plus en plus présente et de plus en plus accentuée au fur et à mesure qu'on poursuit donc, l'histoire, et qu'à la fin, les dernières lignes nous laissent imaginer en fait que le processus continue, qu'il n'y a pas véritablement d'arrêt à cette hybridité humaine-végétale. Et donc, c'est pour ça qu'on voyait quand même une certaine métamorphose.
C'est vrai qu'il y a comme un accroissement quand même de la puissance qui se produit au fur et à mesure du livre, effectivement très présent. Puis c'est drôle parce que c'est sûr que d'un point de vue académique, c'est peut-être pas la chose la plus pertinente, mais il y a quand même d'un point de vue littéraire, d'un point de vue de moi, mes connaissances, à mesure que j'écris ces livres-là, puis c'est parce que parler de blanc résine, j'ai pas le choix de faire le lien avec le processus que j'ai entamé avec le corps des bêtes où l'exercice d'empathie se dirigeait davantage vers les animaux, mais le personnage est profondément engagé dans le corps des bêtes, dans cette espèce de capacité à devenir les animaux. C'est un personnage qui s'appelle Mi et qui se heurte à un moment donné à sa capacité de devenir la plage. Elle est capable de devenir les animaux, elle n'est pas capable de devenir le territoire. Ça traduisait aussi mon incapacité à moi à ce moment-là, me projeter dans un territoire, essayer de comprendre, il y avait trop de facteurs à prendre en compte que je n'étais pas capable d'appréhender. Alors que quand est arrivé Blanc Résine, c'était un des objectifs de ce livre-là, de travailler ma capacité à moi-même me projeter dans le territoire assez pour traduire la transformation du personnage. Tu sais, à un moment donné, on parle un peu de l'envahissement des sens dedans, comment elle se met à entendre tout. Ça devient tellement trop. Mais tu sais, j'ai ressenti ça à différents moments parce que c'est un exercice quand même de projection qui est particulier. Puis si on se met à s'arrêter à tout, ça devient chaotique, ça devient trop sonore, ça devient anxiogène. Donc, il y avait une espèce d'accroissement de mes propres compétences à faire cet exercice-là. Le livre a été écrit de façon chronologique, donc qui progressivement ont pris aussi de plus en plus de place dans le texte. Donc, c'est un chevauchement différent, mais à travers la création, il y a un mouvement de méditation et de compréhension du monde qui a accru au fur et à mesure que j'écrivais le livre aussi. Donc, cette augmentation de puissance-là de Dave vient quand même d'une capacité d'empathie complémentaire de ma part par rapport à la compréhension de l'environnement autour de moi.
J'en profiterai pour poser une question à Audrey sur justement l'environnement dans lequel elle s'est immergée pour inspiration. C'était quel type d'écosystème, c'était à quel endroit? Est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu, nous expliquer comment justement cette puissance a grandi finalement et comment ça t'a inspiré pour écrire le livre?
Il s'est passé un enchaînement de choses vraiment particulières avec ce livre-là par rapport aux environnements. Pour l'écrire, j'étais au centre de Banff pendant 8 semaines, puis c'est vraiment là où j'ai écrit un jet presque con. J'avais les 2 premiers chapitres, puis j'ai écrit tout le reste. Ça a été très, très, très immersif. J'écrirai plus jamais de cette façon-là parce que c'est très exigeant pour soi. Parce que j'ai passé comme 45 jours à travailler 14 heures par jour sur ce roman-là, tous les jours. Puis je sortais prendre une petite marche dans la forêt de Banff, mais je peux pas dire que cet environnement-là, je m'y suis concentrée pour écrire ce livre-là. C'est un univers qu'on retrouve vraiment plus dans Plie la rivière qui vient après, parce que la végétation à Banff est vraiment pas la même que celle que je mets en scène. C'est une végétation de conifères avec un sol qui est très acide, donc il n'y a pas vraiment une densité au sol à Banff. Puis c'était très frappant, cette chose-là, pour moi. Puis c'était pas ça, parce que j'arrivais déjà avec un univers dans ma tête, puis tout ça. Donc je dirais que c'est beaucoup un exercice d'imagination, en fait. C'est vraiment, vraiment un exercice de projection, mais de projection imaginaire, purement. Puis ce qui s'est passé aussi, qui a été très particulier, c'est que j'ai déménagé après, dans un milieu très rural, mais sur le chemin des oies, j'ai trouvé ma maison, puis je veux dire, tout avait été écrit dans Blanc Résine, mais c'est comme si je me l'étais donné à l'avance, cet endroit-là, tu sais. Je suis pas du tout une observatrice, du tout, du tout, du tout, du tout. J'écris à partir de la fiction que je me suis faite des choses, puis une sorte d'exercice de projection. Je pensais aux arbres récemment, vu que c'est ça qui vous occupe, je me suis dit, c'est intéressant. Je pensais aux racines. Je me disais, un arbre, en fait, c'est la tête à l'envers. Je veux dire, ses racines sont par l'endroit où il pense, c'est à l'abri, il n'y a pas d'enjeu météorologique pour les racines. Puis si des branches cassent, ça ne change pas l'identité de l'arbre. Je veux dire, il s'en fout ce qui se passe principalement en dessous de la terre. Mais tu sais, ça, c'est pas en observant tant que ça des arbres. C'est juste que je me mets à penser, OK, un arbre, tu sais. Puis là, cet exercice d'empathie et de réflexion-là m'amène à des endroits imprévus. Banff m'a inspirée, mais pour après, c'était pas l'endroit où j'étais qui a vraiment changé quelque chose.
Comme botaniste, l'utilisation des plantes, des différents arbres, des différentes plantes, c'est des plantes qui poussent dans des biomes différents, qui sont dans le sud du Québec, qui sont dans le nord du Québec. J'ai pas essayé, mais je me suis dit, bon, mais il n'y a pas un milieu bien fixé, là, ici.
C'était vraiment ça que je voulais, là. Je voulais pas qu'on se dise, c'est à tel endroit, tu sais, puis il y a des affaires qui sont plus à la limite scandinave aussi. Je voulais que ce soit une nordicité quelconque, mais pas une nordicité spécifique.
J'ai des plantes qui poussent pas au Québec dans le livre. Je me suis demandé si ton passage au jardin botanique de Montpellier a pu inspirer certaines plantes. J'y étais aussi à ce jardin-là.
Il est fascinant quand même, hein?
Mais malheureusement, un peu en décrépitude.
Mais moi, c'est ça que j'aime un peu aussi. Ça ne me déplaît pas, mais...
La question, c'est dans quelle mesure la littérature offre-t-elle de nouvelles possibilités par rapport aux pratiques de nomination des plantes?
La question, dans quelle mesure la littérature offre-t-elle des nouvelles possibilités par rapport aux pratiques de nomination des plantes? La réponse courte, en fait, c'est de dire, considérant que c'est un des matériaux de base là, de la littérature, c'est le langage, et qu'une des actions linguistiques fondamentales, c'est la nomination, c'est-à-dire l'action d'attribuer un nom à une chose. On devrait dire finalement que le terrain de la littérature est particulièrement favorable à l'exploitation, à des explorations nominales. Le langage, on en a parlé dès les premières remarques de Stéphanie. Je pense qu'il y a eu des considérations linguistiques qui sont revenues dans chacune des questions, d'ailleurs. Ce sera peut-être le moment de l'aborder peut-être un peu plus frontalement ici, là. Mais bon, Stéphanie, quand tu as parlé de langage et de violence, j'ai envie de réagir en disant, au fond, le langage, c'est un système de modélisation, tout simplement. Puis c'est bon de se le rappeler, ne serait-ce que pour peut-être modérer nos attentes par rapport à celui-ci. Dire que le langage, c'est un matériau de base de la littérature, que la nomination, c'est une action, assez fondamentale, tout ça, ça peut avoir l'air assez évident, mais c'est justement le signe là, qu'il faut creuser un peu plus. Puis le roman... Ce que je veux dire, en fait, là, va rebondir sur plusieurs éléments là, qu'on a abordés jusqu'à maintenant. Je voudrais peut-être commencer en disant que Blanc-Résine ne se déroule pas à proprement parler au Québec. Ou positivement, sans dire qu'il ne se déroule pas là, mais on pourrait positivement dire qu'il se déroule dans une sorte de boréalo-laurentie un peu fantasmé. Okay? Réfléchi, renvoyé par un genre de miroir déformant de la fiction. On sent quand même ce cadre géographique flottant dans le nom des lieux, dont le nom de la minière à consonance anglophone, la coal. Moi, j'entends Noranda, j'entends Shefferville, Murdochville, Thetford Mines. On l'entend aussi dans les noms des gens, là, Sœur Blanche, là, me plonge vraiment dans l'imaginaire des filles de Caleb. Là. On le sent aussi dans l'imaginaire végétal, forcément. Puis c'est ce que je veux creuser là, à partir de deux citations là, du mini-recueil là, qui a été compilé. Donc, j'attire l'attention peut-être au premier paragraphe de la page 235. Da marche entre les bouleaux serrés et les érables. Les trembles, les pruches. Là où elle passe, il n'y a pas de sentier. Les troncs des épinettes sont hérissés de branches mortes qui griffent ses joues et sa gorge. Les fougères frémissent, fermées comme des poings de bébé sous les vinaigris. Partout, les bourgeons enflent jusqu'à l'éclatement, leur enveloppe fendue comme des lèvres, les lèvres chiffonnées sous leur membrane. Bouleaux, érables, trembles, pruches, épinettes, peut-être un peu moins, vinaigriers surtout, tendent à situer l'imaginaire peut-être un peu plus vers le sud là, de cette boréalo-laurentie fantasmée. Là, okay. Ces noms, puisque je sais à quoi ils réfèrent, évoquent en moi une certaine biorégion et aussi et surtout une expérience de cette biorégion. Pour les besoins de l'exercice, quand j'ai lu pruche, voilà, je me suis imaginé une pruche du Canada, là, mature, grandiose, là. Elle fait 30 mètres de haut, le tronc fait 1 mètre de diamètre. Là. Elle était déjà centenaire alors que Jacques Cartier foulait là, pour la première fois les berges du Saint-Laurent. J'imagine les odeurs, les couleurs, les formes caractéristiques, les qualités caractéristiques d'une peuplerie ou d'une bétulée, là, les forêts pionnières. Là. Donc voilà, moi je lis ça puis j'imagine ça. On a beaucoup parlé d'imagination aussi. Je ne suis pas certain que le lecteur ou la lectrice qui n'a jamais mis les pieds au Québec ou dans cette boréalo-laurentie fantasmée, qui n'a jamais lu de littérature d'ici, qui ne connaît rien sur la flore d'ici, partagerait les mêmes fondements interprétatifs que moi et sans doute que la majorité d'entre nous ici. Je vais être clair là-dessus. Cette personne peut tirer quelque chose de sa lecture du roman, son interprétation ne sera pas mauvaise. Là. Je ne dis pas qu'elle n'a pas les bonnes clés pour ouvrir le texte, mais je dis plutôt que le nom réfère à la même chose, okay? Érable, que ce soit moi qui le lise ou que ce soit quelqu'un qui n'a jamais vu un érable le lise, voilà, mais ça se réfère toujours au même arbre. Mais le réseau de signification que le mot met en mouvement ne sera pas le même chez celle qui prend des marches quotidiennes dans une érablière ou que chez celle qui ne connaît rien de l'érable ou qui ne connaît que le drapeau du Canada. Voilà, une forme générique là, de la feuille d'érable. Et donc, les noms que l'auteur sème dans son roman indiquent des caractéristiques environnementales, des qualités végétales qui me rappellent finalement des expériences vécues et qui me servent d'attache au monde. Cela dit, on peut aussi imaginer le chemin inverse et passer du texte littéraire pour découvrir quelque chose sur cette Borello-Laurency fantasmée ou imaginée par l'auteur. Puis à ce moment, on avoue finalement que le texte nous influence, on assume le fait que l'expérience de lecture nous colore. Et donc, après ma lecture sur les bouleaux, les trembles, les érables, les pruches, les vinaigriers, peut-être que lorsque j'irai me balader dans un parc ou dans une forêt, je serai peut-être plus attentif à ce qui m'entoure. Autrement dit, l'expérience de fiction aura été un prétexte ludique pour mettre au point mes expériences du monde, les ajuster peut-être. D'ailleurs, je n'ai pas un exemple à partir du roman, il y en a sans doute, là, je ne les ai pas repérés dans le court recueil, mais on peut imaginer une phrase là, comme celle-ci, là, puis j'interviens sur le texte, là, mais quelque chose comme « Da marche entre les bouleaux serrés, les érables, les trembles, les ébéniers et les pruches ». Voilà, j'ai ajouté l'ébène ici. Là. Donc, on aurait pu imaginer des références à des arbres aucunement présents dans le cadre qui situe l'action du roman. Puis en nommant comme ça un arbre tropical, l'auteur aurait créé une sorte de distorsion à son cadre géographique, son cadre biorégional. Là, on serait dans un genre de Borello-Laurency Indonésie, là, glissant genre vers une sorte de fiction dystopique, magique ou spéculative peut-être. Et encore, après la lecture de ce roman aux références mélangées, ben, j'irai me balader dans un parc ou une forêt, puis je verrai en quelque sorte l'absence de l'ébène. Je serai conscient de ce que les forêts d'ici offrent vraiment, entre guillemets. Le second extrait que je voudrais examiner, lui, est à la page 22. D'avril à juin, le printemps dégage, branche par branche, les mauves, gris, verts, bleus du paysage. Mes yeux ne s'habituent pas à la renaissance pastel après l'hostilité éblouissante de mes premiers jours. Autour de Sainte-Sainte-Anne, ma maison taïga s'étire en pessière épinède, talle de lichen, de laidon, misartac, quadjotit, pingui, curliac, en tourbière, en roche qui deviennent montagnes à mesure qu'on s'éloigne. Au milieu des ombres ligneuses sont plantés trois édifices, l'entrepôt, le couvent, la chapelle. Des airs, ils semblent minuscules malgré leur habit de moellon, de bois et le chapeau de tôle arrivé par train de la cité. Donc taïga, ça va. Pessière, pinède, lichen, laidon, tourbière aussi, je vois à quoi il réfère. Mais misartac, quadjotit, pingui, curliac, là je suis confronté à mon ignorance. Là. C'est là que le lexique en annexe du roman a vraiment toute son utilité. Mais là, est-ce que c'est juste une annexe? Je ne suis pas certain. Enfin, ça c'est un autre débat. Puis les lexiques ne sont pas juste utiles. On peut trouver un plaisir à les lire, disons, comme une fin en soi aussi. Et donc, en me référant au lexique, j'apprends donc ces mots sont en inuktitut, là. Misartak, thé du Labrador, Kojotit pour trip de roche, là. Le lichen écailleux brunâtre là, qui pousse sur les roches, pingui, le mélèze larcin, curliac, l'épinette noire. Puis, parce que je suis curieux, parce que j'aime patauger dans le langage, je cherche d'autres sources, puis je m'aperçois que d'autres sources indiquent d'autres choses. Misartak, il y en a qui donnent ce nom-là pour le pissenlit. Curliac, on le donne aussi pour juste la sève à l'état coulant. Et là, puisque je ne suis pas du tout en position pour trancher, j'accepte en quelque sorte le caractère approximatif de la langue et le jeu des conventions linguistiques. Okay. J'attire l'attention à ce passage précis, puis je termine là-dessus, là, où l'auteur mobilise donc des noms dans une langue qui m'est étrangère et qui est probablement étrangère à beaucoup de lecteurs et de lectrices du roman, puis je l'affirme sans présumer quoi que ce soit sur les compétences linguistiques de tout un chacun, mais juste par vérité statistique, là, pour ainsi dire. Ces noms-là, qui se réfèrent à des choses réelles, là, dans le monde, en langue étrangère, me permettent de voir autrement le monde, ou plus justement de me voir en train de construire le monde par le biais de mes ressources linguistiques, de reconnaître que ces ressources linguistiques ne vont pas de soi, qu'elles ne sont pas universelles, que d'autres langues modélisent autrement le même monde. Et donc, ce que j'ai toujours nommé épinette noire pourrait s'appeler curliac ou napartouk, etc., etc. Et le lexique le fait état de plein de langues, le russe, le wendat, l'abénaki, l'irlandais, etc., plein de cultures aussi, hopi, grec, basque, gaélique, païenne, globalement, voilà, voilà. Et donc, c'est par une liberté artistique là, de mélanger comme ça des langues, comme le fait Audrey Villemy, là, que je vois finalement des strates ou des échafaudages culturels qui s'érigent à partir du monde. Et je pense ici à une très belle formule qui est employée par une philosophe, philologue et traductrice, Barbara Cassin, une formule qu'elle emprunte au romantique allemand où elle dit, ben voilà, la langue est comme un filet qu'on jette sur le monde et qui nous ramène quelque chose de celui-ci. Donc, sans dire que le monde est une construction linguistique, il faut tout de même avouer que ces modélisations, peu importe la langue, ben, amèneront des usages parfois partagés, parfois uniques à chaque langue. Et donc, en passant par un texte, dans ce cas-ci un texte de fiction, et dans ce mélange de langues qui va opérer, on peut découvrir, redécouvrir ou découvrir autrement finalement ce territoire boréalo-laurentien, là aussi souplement qu'a pu l'imaginer Audrey Villeneuve. Et donc voilà, je terminais là-dessus. Merci beaucoup.
Merci, Jonathan. Je pense que je vais donner la parole à Rachel en premier, oui. Parce qu'en fait, je vois qu'on parle de la flore et du milieu géographique, ça croise beaucoup, en fait, il y a des emplois inventeurs.
Oui, d'ailleurs, tu as commencé à en parler de ce terme géographique, puis c'est d'ailleurs la question que je voudrais poser à la fois à Vincent et à Alain en particulier, parce que peut-être commencer par parler du cadre géographique et temporel. On avait fait un article, Noémie et moi, sur la question, notamment des frontières floues. Et puis, on s'était intéressé au réel merveilleux, au réalisme magique. Et donc, on avait fait une étude de l'espace et de tous les toponymes pour essayer de mieux comprendre comment se présente la cartographie de cet univers imaginaire. Et donc, là, on avait pu voir qu'effectivement, les toponymes font l'objet d'un grand travail, je veux dire. Donc, à la fois des toponymes qui sont empruntés à différentes régions du globe, mais aussi d'autres qui sont inventés en suivant des principes toponymiques, soit autochtones, hein, quand on utilise un élément de l'environnement, ou encore plutôt basé sur le principe francophone occidental, Sainte-Luce ou Sainte-Luce aux Faroles, Sainte-Sainte-Anne, des choses comme ça. Et puis il y avait donc un entremêlement de sonorités, de langues, comme tu disais tout à l'heure, Jonathan, et puis les espaces qui sont habituellement éloignés les uns des autres, qui donnent naissance à un espace hybride. Donc, très cohérent, qui a ses propres lois, ses propres codes. Donc, ça, c'était pour cartographie imaginaire. Même chose pour le rapport à l'histoire, on en a parlé tout à l'heure. C'est pas assez flou, mais on reconnaît une époque qui est marquée par le chemin de fer, le travail éreintant dans la mine, les pensionnats dans les villes pour les garçons. Donc, on arrive à situer quand même, effectivement, un certain nombre de choses. Mais la flore, alors là, je me suis posé la question. Est-ce que la flore subit le même traitement? Est-ce que l'ancrage dans le réel, finalement, n'est pas tributaire de cette flore spécifique? Personnellement, j'ai reconnu quand même un biome, une forêt boréale, comme toi, Jonathan, des espèces que je reconnais, mais parfois on parle aussi de la toundra, là, donc il y a la taïga, la toundra, mais comme je ne suis pas botanique, je ne suis pas botaniste, pardon, et que je ne suis pas capable de reconnaître chacune des espèces et de les situer dans l'espace ou dans les biomes, pour moi, il y avait un ancrage très profond dans le réel. Voilà. Et donc, je me suis demandé si on pouvait construire un univers cohérent, si, par exemple, la flore était inventée de toutes pièces, ou encore si on colle comme ça des espèces qui poussent dans des biomes différents et qu'on les place dans un univers, est-ce que ça forme aussi, est-ce qu'il y a un ancrage dans le réel? Alors, je me suis demandé si la littérature pouvait être finalement un nouveau terrain pour que poussent les plantes, quand on dit que peu la littérature pour le végétal. Est-ce que c'est de nouveaux terrains où là, des espèces peuvent se retrouver? De là à placer des ébéniers à côté des érables, personnellement, je trouve que là, on perd tout l'effet de réel, boréal, qui est présent dans ce texte. Donc, il me semblait qu'il y avait comme une unité, une cohérence, mais peut-être que c'est dû simplement à mon ignorance des biomes en question. Donc, je vais laisser la parole à Vincent ou à Alain, parce que j'aimerais beaucoup avoir leur avis sur la question.
Peut-être juste rapidement, puis Vincent, tu parles. Il y a les oreilles d'ours qui sont une plante européenne, le taquis qui ne pousse pas au Québec du tout. Donc, on est un peu dans des situations où on est moins éloigné parce qu'on reste dans une zone un peu plus septentrionale, donc dans des plantes qui sont dans des habitats un peu plus semblables qu'un ébénier.
Qui pourrait pousser éventuellement? Ou
Oui, qui pourrait pousser au Québec, mais probablement pas se naturaliser, mais on est à des asclépiades et des négriers qui sont plus au sud et avec des plantes qui sont plus au nord. Le fait d'utiliser également les termes inuktitut, royautic, rouliac et tout ça, c'est nous ramène donc dans la toundra qui peut être forestière parce que n'importe où Trunac, c'est des épinettes noires de la toundra. Et c'est curieux parce que si on prend la culture inuite et on la déplace même dans une zone qui est tout à fait identique, les plantes ont un visage complètement différent. Ça, c'est assez amusant. La même plante, la même épinette n'est pas reconnue par une personne qui habitait Hebron sur la côte du Labrador et Nain. Ce nominatif perd tout son sens pratiquement et s'effrite par le fait qu'on est déplacé, alors que c'est les mêmes plantes. 95 % et 98 % des plantes à Hebron se retrouvent à Nain. On ne les reconnaît plus et les gens vont me dire ben, « je ne suis pas qualifié pour en parler parce que ce ne sont pas des plantes que je connais ». Alors que c'est les mêmes, tous les runacs, c'est n'importe quel runac. C'est vrai que Jonathan Misartak, c'est un terme qui était un peu flou. Le terme du Labrador, c'est Mamatukuté, qui est plus utilisé. Et on voit encore là cet effritement de langue qui est énorme et que donc le fédéral veut protéger les langues autochtones. De rappeler ces termes-là remet aussi au lecteur dans des réalités aussi d'érosion du savoir, de mélange et tout ça. Donc, ça vient un peu réveiller, même si on ne connaît pas les termes, puis on n'est pas sûr qui poussent tout au Québec ou dans la même région. Ce réveil-là à ces plantes-là, c'est, ça vient chercher le lecteur, peu importe qu'on soit rigoureux dans les plantes.
Pour aller plus loin, je me suis demandé si le fait de reconnaître des espèces, de pouvoir identifier un type de flore, c'était pas plus important pour l'immersion fictionnelle que de reconnaître des lieux.
Puis je vais juste finir là-dessus. Une anecdote que j'ai vécue. Partie de Noël au Jardin botanique de Montréal, André Bouchard était toujours vivant. Écologiste important du Canada. Puis il me dit, toi, Alain, quand tu rentres dans une forêt, qu'est-ce que tu vois? Je dis, moi, je vois de la lumière, des couleurs et des parfums. Mm-hmm. Puis tout le monde m'a regardé en disant, mais ça va pas dans la tête. Mais je passe à côté, je caresse une plante, puis je la nomme en latin. Maintenant, je la nomme en plusieurs langues autochtones. Mais au départ, pour moi, c'est ça. C'est comme une espèce de peinture. C'est l'approche que peut faire et que doit faire un romancier ou un poète. Après, c'est libre à lui de, ou à elle d'aller chercher les éléments vraiment stricts. Et ça, c'est parce qu'on est façonné par une discipline.
Je disais tantôt que d'un point de vue littéraire, quand on lit un texte ou une question de science, c'est pas la vérité propre au champ disciplinaire qui me semble intéressant, mais les effets sociaux imaginaires. Il me semble que dans un cas comme ça, moi qui suis pas botaniste, et qui, donc, ça échappe complètement s'il y a des plantes qui sont au bon endroit, c'est que dans la mesure où le texte n'est pas situé sur le plan, précisément sur le plan spatial, ni sur le plan temporel, on est quand même projeté dans un univers qui est vraiment en soi un univers imaginaire. Et là, ce qui m'intéresse, c'est de voir dans quelle mesure la science, la botanique, enfin les plantes, le végétal, a des effets sur les personnages, sur les lecteurs. C'est-à-dire, dans quelle mesure le végétal ici a un effet ontologique sur les individus, dans quelle mesure ça transforme leur rapport au monde, comment ça transforme le rapport au langage, aux perceptions, au sens, tout ça. Et de mon point de vue à moi, c'est ça qui est intéressant, parce qu'au fond, moi qui m'intéresse à la présentation de la science dans la littérature, je dirais que ça m'est venu au départ, il y a très longtemps, par une espèce d'effet épiphanique. Je me suis rendu compte que pour la plupart des gens, la science, ça ne fait pas partie de la culture. Ce qui est une aberration. Mais je veux dire, quand on pense, je me souviens de Jean-Marc Lévy-Leblanc, qui est un physicien qui s'est beaucoup intéressé au rapport à la culture, la science à la culture, à la politique, à la littérature, tout ça. Il disait, allez dans un cocktail, un 5 à 7, on va vous parler de littérature ou de cinéma, de théâtre ou de bagnole, de sport ou d'art, jamais de chimie ou de maths. Qui sont pourtant, les mathématiques, ça existe depuis des milliers d'années. Mais c'est ça qu'au départ m'a intéressé, c'est de répondre à cette question, pourquoi, pour bien des gens, les sciences ne font pas partie de la culture. En fait, on se rend compte qu'ils sont partout dans la littérature. Ils sont extrêmement présents, ils nourrissent les fictions, ils nourrissent les narrations, ils nourrissent l'imaginaire. Mais évidemment, pas nécessairement de façon didactique. En fait, quand c'est didactique, souvent, c'est moins intéressant. Parce que là, on nous explique quelque chose qu'on ne veut pas se faire expliquer. Il y a d'autres très bons livres. Il y a d'excellents ouvrages de vulgarisation scientifique. C'est pas ça qu'on cherche. C'est une manière de penser le rapport à la science, à notre monde, à notre subjectivité, qui me semble intéressant.
Je ferai du pouce sur ce que vient de dire Alain. Avec mes recherches, j'ai l'occasion d'aller en toundra arctique du côté de Pont-Ninlet, au nord de l'île de Baffin. Et puis, on s'intéresse beaucoup aux différentes espèces de saules parce qu'elles changent énormément, la croissance de ces espèces-là change énormément avec le réchauffement climatique. Et donc, on s'intéresse à leur capacité justement à grandir et puis à modifier l'écosystème de toundra. Et donc, on avait ramené des plants d'une expédition il y a quelques années pour les étudier, puis on les a mis dans des conditions de croissance très favorables. Et donc, on avait ramené trois espèces de saules, Salix artica, Salix reticulata, puis Salix richardsoni. On les a laissés pousser pendant quelques semaines, et au départ, on était capable de leur donner un nom, de bien les reconnaître. Et au bout de quelques semaines, elles avaient tellement grandi qu'on était incapable. On ne savait plus quel individu appartenait à quelle espèce. Et donc, c'était complètement fascinant, la plasticité de ces individus en quelques semaines. Donc, pour revenir à ce que disait Alain, sur la capacité à nommer finalement un individu selon nos connaissances et selon un contexte environnemental, selon un paysage, c'était une expérience très perturbante parce que sur le terrain, c'était très, très facile de les reconnaître. Mais là, dans une nouvelle condition, qui était complètement irréel, hein, mais ça les a amenés à s'adapter à cette condition-là et puis à les transformer. Et donc, on était peut-être plus capable de leur donner un nom. Cet exercice, je dirais, expérientiel de se projeter puis d'essayer d'imaginer à quoi pourraient ressembler des espèces, des individus dans des nouvelles conditions, dans des nouveaux paysages. Finalement, on essaye de faire avec les études sur le réchauffement global et les impacts dans les 50, 100 prochaines années. Souvent, c'est cet horizon-là qui est utilisé dans les articles, dans nos disciplines. C'est vraiment cet exercice-là de savoir quelles vont être les nouvelles conditions, puis comment ça va modifier le comportement végétal et essayer de le faire par espèce. Et donc, dans ce cas-là, on essaye de le faire par une méthode expérimentale en plaçant les espèces dans ces nouvelles conditions-là. Pour répondre à la question générale finalement d'aujourd'hui, que peut la littérature pour le végétal, ben, c'est justement de ne pas s'imposer de frontières sur quelle forme pourraient prendre dans l'avenir les espèces végétales. Donc on est vraiment dans cette thématique-là pour développer nos recherches-là. C'est quelque chose qui peut être très utile.
Ce que j'avais envie de dire, la première chose, c'est que le travail lexical, pour moi, a été vraiment très important dans la perspective de mettre en scène un personnage qui comprenait toutes les langues de la nature. Donc, comment faire en sorte qu'à travers la bouche d'un personnage, puis tu sais, on ne le retrouve pas dans le lexique à la troisième personne, c'est vraiment quand Daa parle qu'il y a l'inclusion de différentes langues. Puis l'idée, c'était comment faire pour que, si elle a toutes ces connaissances-là, clairement le lecteur ne les a pas, donc comment générer une idée de ce savoir global et total-là à travers la langue et l'utilisation de lexique propre à des communautés qui sont dans un rapport plus rapproché à la végétation, à la nordicité et la multiplication des empreintes dans différentes langues. Et finalement, ce que j'ai retenu, mais tu sais, je me suis interrogée sur inventer des mots ou est-ce que j'invente des noms, est-ce que je crée un décalage? Puis je me suis dit, la multiplication des référents va créer le même effet, mais permettre aux gens d'approfondir leurs connaissances, d'être confrontés à différentes langues autochtones, mais aussi tu sais, de travailler avec la langue russe. Il y a différents lexiques nordiques qui m'ont inspirée. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'un des éléments qui est vraiment à l'origine de ce projet-là, c'est le rapport. J'ai commencé à publier en France en 2015. Et j'ai rencontré beaucoup de lecteurs français en 2015 puis 2017. Ils ne comprenaient pas c'était quoi la forêt. J'avais cette conversation-là, puis j'étais comme, voyons, la logique géographique qui m'est présentée en ce moment, c'est pas la forêt telle que moi je l'ai dans ma tête et telle qu'on l'expérimente au Québec. Et cette idée-là, elle est quand même vraiment très importante dans le roman, c'est-à-dire que je voulais cristalliser cette espèce de forêt comprise, avec beaucoup de guillemets, mais cette forêt expérimentée par Daa. Puis je voulais que l'or ait un rapport beaucoup plus français tel que je le vivais avec les lecteurs que je rencontrais à la forêt. Donc, ce contact-là avec des gens qui ne comprenaient pas la forêt de la même façon que moi a été vraiment super important dans la construction des personnages. Puis ça s'est cristallisé d'une façon extraordinaire avec mon éditrice en France, Chloé, qui est une Parisienne, profondément parisienne, à qui j'ai envoyé un sachet de thé de Camélia Sinensis, le thé qui s'appelle Taïga Sauvage. C'est vraiment un thé boréal spécifique. Puis elle me disait, voyons, c'est bizarre, qu'est-ce que ça sent? Puis elle comprenait zéro l'odeur. Puis elle me dit, est-ce que c'est un thé au tilleul? Puis j'étais comme, non, mais voyons, un thé au tilleul. Tu sais, je veux dire, ça sent la résine, ça n'a aucun rapport avec le tilleul. Puis je me suis rendu compte que donc, la capacité à comprendre cet espace-là, elle n'allait pas du tout. Puis tu sais, je savais que Gracie allait publier le livre aussi en France. Donc, je savais qu'il ne serait pas reçu de la même façon. Puis qu'il y aurait une dimension exotique à la forêt pour les Français dans cette lecture-là. Mais je voulais leur donner des repères à travers le personnage de Laure pour leur permettre d'entrer quand même dans cet univers-là par une autre porte que celle que mes lecteurs québécois pouvaient plus expérimenter, plus connaître. Donc, c'était les deux éléments par rapport à ça que je voulais apporter.
Je trouve ça assez intéressant parce que je bois du thé Paga Sauvage en ce moment. Ça serait tellement bien de t'envoyer un petit sachet pour tout le monde qui achète un livre. Et tu as fait... ouais, juste pour sentir, pour revenir à ce qu'elle a dit, entrer dans un milieu, c'est sentir, c'est goûter, c'est les couleurs, c'est les lumières. Donc, merci, merci à tout le monde. Merci tout le monde en ligne aussi. Je vois beaucoup de noms d'avoir assisté à cette table ronde.
Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Les balados OIC sont disponibles sur toutes les plateformes de balado-diffusion et sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain à l'adresse oic.ucam.ca.